Péroua, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le Monde aujourd'hui, édition du jeudi 7 décembre 2017. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia et Anne Albertson pour commencer les titres.
Réaction négative dans une bonne partie du monde après la décision du président Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël.
Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson effectuera un voyage en Afrique début 2018.
Plus de 50 personnes tuées en République centrafricaine dans des affrontements entre groupes armés à Ipi.
En Côte d'Ivoire, un millier de militaires ont profité du plan de départ volontaire de l'armée.
Le Sénégal inaugure aujourd'hui un nouvel aéroport international à Dias, situé à 47 km au sud-est de Dakar.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Actualité oblige, nous ouvrons avec la décision du président américain Donald Trump concernant Jérusalem.
Therefore, I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel.
Le président Donald Trump annonçant hier à la Maison-Blanche que les États-Unis reconnaissent officiellement Jérusalem comme capitale d'Israël et entament le processus de transfert de leur ambassade de Tel Aviv. Réaction négative dans une bonne partie du monde. Monsieur Trump a cependant souligné que les États-Unis restent profondément engagés à aider à faciliter un accord de paix acceptable pour Israël et les Palestiniens. Il a ajouté « J'ai l'intention de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour aider à sceller un tel accord ». Les États arabes et musulmans avaient averti le président Trump que cette décision controversée sur Jérusalem pourrait enflammer les passions dans la région et détruire les efforts américains pour conclure un accord de paix israélo-arabe. Les réactions à travers le monde maintenant avec Yacouba Ouedraogo.
Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a salué comme un jour historique cette décision du président américain. Par contre, Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne, estime que les États-Unis sapent tous les efforts de paix. Pour le Hamas, cette décision ouvre, je cite, « les portes de l'enfer aux intérêts américains dans la région », appelant les pays arabes et musulmans à rompre avec les États-Unis et expulser tous les ambassadeurs américains. La Jordanie a condamné une décision violant le droit international, irresponsable pour la Turquie et regrettable d'après la France. L'Italie réitère que le statut de Jérusalem doit être défini dans le cadre d'un processus de paix. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dit d'y avoir toujours été contre toute mesure unilatérale et appelle à une négociation directe entre Israéliens et Palestiniens.
Le négociateur palestinien Saeb Erekat a affirmé que M. Trump a disqualifié les États-Unis de tout rôle dans un quelconque processus de paix. Les Palestiniens revendiquent Jérusalem-Est, occupée après la guerre de juin de 1967, puis annexée par Israël comme la capitale de l'État auquel ils aspirent. En revanche, Israël proclame tout Jérusalem, Ouest et Est, comme sa capitale éternelle et indivisible. Jérusalem est une ville sainte pour les religions juives, musulmanes et chrétiennes. Au Vatican, le pape François a exprimé sa profonde préoccupation et la Turquie a appelé à une réunion de l'Organisation de la coopération islamique.
L'Iran chiite a qualifié la décision du président américain de provocation illégitime et très dangereuse. Sa rivale sunnite, l'Arabie saoudite, a de son côté parlé de décision injustifiée et irresponsable, que le Liban aussi rejette et dénonce. La Syrie dit soutenir ceux qui sont loyaux à la cause palestinienne. La Tunisie se dit profondément préoccupée et dénonce ce qu'elle appelle une atteinte primordiale au statut juridique et historique de Jérusalem et aux résolutions de l'ONU. L'Union européenne a exprimé sa sérieuse préoccupation. L'Allemagne a dit ne pas soutenir cette position de M. Trump et la Grande-Bretagne n'est pas d'accord. Le Canada a pour sa part appelé au calme.
L'administration Trump a énergiquement défendu la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël, soulignant que le président ne fait que reconnaître une réalité historique et contemporaine Mais il est vrai aussi que M. Trump tient ainsi une promesse électorale faite à sa base de chrétiens évangéliques et partisans juifs. Et le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a soutenu que les États-Unis sont toujours convaincus qu'il y a une très bonne chance de paix entre Israéliens et Palestiniens.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le reste de l'actualité, le secrétaire d'État américain Rex Tillerson s'est rendu mercredi sur la base militaire américaine de Ramstein en Allemagne pour préparer un voyage en Afrique début 2018. Il a démenti les rumeurs persistantes sur son éventuelle démission, John Lindon.
Le voyage aura lieu durant le premier trimestre 2018, a indiqué le département d'État sans préciser les pays où il va se rendre. Le chef de la diplomatie américaine a fait un arrêt hier à la base de Ramstein, dans l'ouest de l'Allemagne, pour s'entretenir avec des officiers sur ce voyage en Afrique. Ces dernières années, l'activité militaire américaine s'est accrue sur le continent avec des missions d'entraînement de troupes locales et des combats contre les islamistes. En octobre dernier, des djihadistes présumés ont tué 4 soldats américains et 5 soldats nigériens dans une embuscade près de Tongo Tongo, une petite bourgade du Niger. Avant Ramstein, Rex Tillerson avait fait une halte à Vienne et à Bruxelles où il a démenti les rumeurs sur sa démission. Visiblement excédé, il a retorqué aux journalistes que c'est une histoire qui n'arrête pas de revenir toutes les 6 semaines et qu'il faut qu'ils aillent obtenir de nouvelles sources parce que cette histoire, a conclu le diplomate américain, est toujours fausse.
Nouvelle tension dans le centre de la République centrafricaine. Plus de 50 personnes ont été tuées dans des affrontements entre groupes armés à Ipi, dans la préfecture de la Waka. Des combats qui ont fait également des milliers de déplacés. Notre correspondant à Bangui, Freeman Sipila, fait le point.
Les affrontements ont éclaté dimanche dernier entre ex-Silikai Antibalaka, signataire en octobre dernier d'un pacte de non-agression dans la même ville de Ipi. Les combats ont déjà provoqué la mort de plus d'une cinquantaine de personnes, dont la plupart des civils. Contactés par VOA Afrique, certaines sources locales ont indiqué que la ville est vidée d'une partie de sa population fuyant en brousse. Plusieurs milliers d'autres personnes sont massées à l'église catholique et aux alentours de la base de la MINUSCA, la mission de l'ONU. Jusqu'à mercredi soir, des corps inertes jonchaient encore le sol. Abbé Roger Stanislas Diamawa, président de la Commission pour la paix et le développement du Ipi.
Depuis dimanche jusqu'à aujourd'hui, les corps gisent là où les murs sont tombés. Et nous cherchons avec beaucoup de difficultés, avec la Croix-Rouge, pour intervenir ce corps. Les civils ont pu estimer la perte à au moins 30 et puis les combattants entre eux ont pu estimer à 20 également.
À Bangui, le gouvernement dit n'avoir pas encore des précisions sur ces combats. Son porte-parole Maxime Kazagi, ministre de la Communication, a annoncé mercredi lors d'une conférence de presse qu'il en était informé à travers les médias. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, un millier de militaires ont profité du plan de départ volontaire de l'armée qui est en pleine restructuration pour diminuer ses effectifs pléthoriques. Des détails avec Solange Diamoulissa.
Le porte-parole du gouvernement, Bruno Kone, a affirmé qu'au 31 octobre 2017, 991 demandes sur 1067 ont obtenu un avis favorable de la commission qui examine les demandes de départ. Il s'agit de 3 officiers, de 634 sous-officiers et de 354 militaires de rang. Il a ajouté que les soldats concernés seront mis à la retraite anticipée à la fin de ces mois et recevront leur pécule de départ. Il a expliqué que la répartition de l'effectif de l'armée est en déphasage avec les normes admises pour une armée moderne. L'armée ivoirienne compte quelque 23 000 soldats, dont 6 000 sergents, pour un total de 15 000 sous-officiers. Les autorités ont promu massivement des militaires en intégrant des anciens rebelles lors de mutineries de 2014. Cette année, de nouvelles mutineries pour des primes ont ébranlé le pays, alors que de nombreux militaires ivoiriens se plaignent de leurs conditions de vie.
Le sénateur démocrate américain Al Franken, accusé de comportement déplacé vis-à-vis des femmes, a été lâché mercredi par la plupart de ses collègues du Sénat, qui l'ont appelé à démissionner sans délai. Au total, au moins 29 des 48 sénatrices et sénateurs démocrates l'avaient appelé à abandonner son mandat en fin de journée. L'entourage d'Al Franken a indiqué qu'il ferait une annonce ce jeudi.
La Chine a dénoncé aujourd'hui une violation de sa souveraineté territoriale après le survol du pays par un drone indien qui s'est écrasé, selon l'agence étatique Chine Nouvelle qui cite un communiqué de l'armée. Les deux géants asiatiques, traditionnellement rivaux, se sont mesurés l'été dernier à propos d'une querelle frontalière dans l'Himalaya lorsque des soldats indiens ont bloqué la construction d'une route dans une zone contestée. Les soldats des deux pays ont fini par retirer leurs troupes en août. Le commandant en chef de l'armée indienne a indiqué depuis que son pays devait se préparer à la guerre. La Chine et l'Inde se sont affrontés lors d'un bref conflit frontalier en 1962.
Plusieurs incendies faisaient rage mercredi autour de Los Angeles avec plus de 200 000 personnes sous ordre d'évacuation, tandis que des milliers d'habitations étaient menacées, notamment dans le luxueux quartier de Bel Air, à la fin d'une année noire pour les feux en Californie.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Eric Manirakiza.
Au Gabon, le prix du carburant à la pompe connaît une hausse record. La fin des subventions chiffrées aux environs de 200 milliards de francs CFA est à l'origine de cette situation. Le prix de l'essence a atteint 605 francs CFA le litre dans les stations-service et 635 francs CFA pour les industriels. Celui du gasoil est de 540 francs CFA le litre en stations-service et 570 francs CFA pour les industriels. Reprise des échanges commerciaux entre le Brésil et les pays africains. Les exportations brésiliennes vers l'Afrique ont atteint près de 8 milliards de dollars fin octobre. Ceci représente une hausse de plus de 26%. Parallèlement, les importations brésiliennes en provenance d'Afrique ont progressé de plus de 16% pour atteindre plus de 4 milliards de dollars. Le solde commercial enregistré par le Brésil dépasse 3 milliards de dollars. Enfin, projet de ciel unique en Afrique en vue d'une interconnexion entre différents réseaux de navigation. Il vise à renforcer la sécurité aérienne, la recherche et le développement pour suivre des pratiques de services de navigation efficaces. C'est un accord entre l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et Madagascar et Air Traffic Navigation Service.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Voilà, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
On connaît les derniers qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions en Europe.
Liverpool a assuré sa qualification ainsi que la première place du groupe E en assommant le Spartak Moscou. Tenez-vous bien, 7 buts à 0. Sadio Mané et Mohamed Salah, buteurs pour Liverpool. Séville accompagnera les Reds en huitièmes de finale malgré une piètre prestation. À Maribor, match nul, un but partout. Alors que Manchester City a concédé sa première défaite de la saison à Kharkiv contre le Shakhtar Donetsk, 2-1, Naples n'a pas pu rejoindre les huitièmes de finale de cette Ligue des Champions, battue par le Feyenoord de Rotterdam, 2-1. Dans un match sans enjeu, Monaco a sombré à Porto, 5-2. Vincent Aboubakar, auteur d'un doublé pour les Portugais, qui accompagneront Beşiktaş, qui s'est imposé 2-1 face à Leipzig. À noter que Naby Keita avait réduit le score pour les Allemands. Enfin, dans le groupe H, Tottenham a balayé Nicosie 3-0. Le Real Madrid s'est fait peur mais a fini par l'emporter contre Dortmund 3-2. Aubameyang avait réduit le score. À noter que Ronaldo, buteur, est devenu le premier joueur de l'histoire de la Ligue des Champions à marquer lors de chacun des 6 matchs de la phase de poule.
Mondial des clubs à Abu Dhabi.
Al Jazeera Abu Dhabi s'est qualifié pour les quarts de finale de ce Mondial des clubs en écartant hier Auckland City, victoire 1-0 grâce à un but de Romarinho, ancien joueur des Corinthians. Al Jazeera Abu Dhabi affrontera Urawa Red Diamond, ce sera samedi, pour une place en demi-finale contre le Real Madrid. Et puis dans l'autre quart de finale, le WAC Casablanca sera opposé au Mexicain de Pachuca.
Coupe CECAFA au Kenya, les matchs ce jeudi.
À suivre Tanzanie, Zanzibar, Burundi, Éthiopie et Rwanda, Libye. Allez Idrissa, avec vous quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Sacramento Kings et Cleveland Cavaliers. 95-101, Chicago Bulls et Indiana Pacers 96-98, Atlanta Hawks et Orlando Magic 106-110, Dallas Mavericks et Boston Celtics 90-97, Memphis Grizzlies et New York Knicks 88-99, Golden State Warriors et Charlotte Hornets 101-87, Detroit Pistons et Milwaukee Bucks 100-104, Denver Nuggets et New Orleans Pelicans 114-123.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Retour sur la décision du président Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Monsieur Trump a également demandé au gouvernement fédéral de se préparer pour déplacer l'ambassade américaine de Tel Aviv. La décision de Monsieur Trump est qualifiée d'historique, mais ce n'est point une nouveauté, a dit à Idriss Fall le professeur Elie Carmon du Centre interdisciplinaire, une grande université privée près de Tel Aviv.
Jusqu'en 1973, 16 pays, et cela inclut 3 pays africains, Kenya, Côte d'Ivoire et Zaïre à l'époque, avaient des ambassades à Jérusalem. Il y avait la Hollande, Chili et encore 13 pays qui avaient des ambassades à Jérusalem. Seulement après la guerre de Yom Kippour et l'embargo des pays arabes du pétrole et une décision du mouvement des pays non alignés, qui était à l'époque anti-américain. Plusieurs pays ont fait quitter leur ambassade de Jérusalem. Et puis, quand Israël a décidé en 1980 d'annexer Jérusalem de l'Est, les autres 13 pays aussi, les ambassades ont quitté Jérusalem. Donc, ce n'est pas exactement une nouveauté. Toutes les visites officielles de tous les présidents américains et des premiers ministres et présidents d'autres pays se fassent à Jérusalem. Et cela inclut, par exemple, le roi Hussein de Jordanie.
Quel est l'avenir du processus de paix qui est bloqué depuis 2014 et que Jared Kushner essaie de relancer?
Comme a dit le président Trump, il y a un processus qui est, disons, plus ou moins secret, dans lequel, d'un côté, c'est les États-Unis et les Palestiniens et les Israéliens, mais aussi les pays arabes, surtout l'Arabie saoudite et les pays du Golfe, qui tentent d'arriver à une formule, parce que cette négociation est déjà interrompue pratiquement depuis 3 ou 4 ans, en espérant que les deux parties feront des concessions. Pour le moment, je crois à la possibilité que des manifestations violentes ne seront pas contrôlées. Ça peut provoquer une certaine période d'instabilité et arrêter peut-être ce processus.
Jérusalem, capitale d'Israël, alors que les Palestiniens voulaient faire de Jérusalem aussi la capitale de leur futur État. Comment est-ce que c'est possible techniquement? Est-ce qu'on va séparer Jérusalem Ouest et Jérusalem Est?
Ça, c'est le problème le plus épineux, le plus délicat d'une solution finale de ce conflit. Jérusalem, c'est le problème avec le problème des réfugiés le plus compliqué, le plus sensible. Mais ce que a dit le président, je crois, il a dit que nous n'acceptons pas que Jérusalem soit la seule capitale d'Israël, mais qu'il y aura une décision acceptée par les deux parties avec la communauté internationale qui décideront quelles seront exactement les frontières. Est-ce que ce sera la capitale des deux? Il n'a pas mentionné cette possibilité, mais il a dit que nous acceptons le principe de deux pays qui seront acceptés par les Palestiniens et les Israéliens. Donc en fait, le président Trump reconnaît la possibilité d'un État palestinien.
C'était le professeur Elie Carmon du Centre interdisciplinaire, une grande université privée près de Tel Aviv.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Mali, l'opéralisation de la force civile du G5 Sahel est au centre d'une rencontre de 72 heures. Elle regroupe, outre les directeurs généraux des pays du G5 Sahel, les représentants des juridictions spécialisées en matière de lutte contre le terrorisme, ainsi que les gendarmes. L'atelier de Bamako doit valider les textes réglementaires de la future force civile. Pour davantage de précisions, Kassim Traoré, notre correspondant à Bamako.
Un attroupement matinal, mais peu ordinaire, des agents de la sécurité devant l'hôtel El Farouk de Bamako. C'est en franchissant le seuil de l'établissement qu'on se rend compte qu'il y a une rencontre sur la composante police et gendarmes du G5 Sahel. Moussa Ag Infaï, directeur général de la police nationale du Mali.
Nous allons dire comment sera composée cette force et quelles sont ses missions. C'est des missions de police essentiellement portées sur la sécurité intérieure et puis la police judiciaire. Nous sommes en train de lutter contre le terrorisme. Le tourisme n'est pas la négation des droits humains. Donc il y a lieu de mettre en place ce dispositif et qu'il y ait une suite judiciaire aussi à toutes les actions touristes. Parce que quand il y a une scène de crime, il faut analyser la traiter et apporter les preuves de l'incrimination. Et c'est ça que nous voulons donner aujourd'hui. C'est pourquoi vous voyez, tous les procureurs généraux des pôles spécialisés des pays membres sont aussi présents, Interpol est aussi présent et tous les agents des Nations Unies impliqués qui sont présents.
C'est la commission défense sécurité du G5 Sahel, lors de sa réunion de novembre dernier en N'Djamena, qui a donné quitus au Mali d'organiser un atelier sur les composantes police et gendarmes. Jeffery Bawa, administrateur du programme Sahel à l'ONUDC.
Cette composante est extrêmement importante. Si nous voulons combattre le terrorisme et la criminalité organisée dans le Sahel, il faut bien sûr que les terroristes et les criminels qui sont arrêtés puissent être emmenés en justice et avoir un procès juste et équitable. Donc il est très important que les policiers, par exemple, puissent collecter les preuves lorsqu'il y a des incidents et des infractions.
Bamako doit permettre une validation des textes proposé avant qu'il ne soit envoyé au Conseil de défense et de la sécurité du G5 Sahel qui aura lieu au mois de février prochain. Pierre Lapac, représentant régional de l'ONUDC basé à Dakar.
Pour s'assurer que les gens qui ont commis des crimes et des délits puissent être condamnés et qu'ils puissent passer un certain temps en prison. Et c'est à la justice de décider combien de temps ils doivent passer en prison. Mais ça ne peut se faire qu'à condition de ce qu'on appelle la procédure, c'est-à-dire depuis l'interpellation jusqu'à la condamnation, cette procédure soit bien faite. C'est une zone où les choses ne se passent pas comme ailleurs dans le monde, où le tribunal le plus proche se trouve à 10 km de là. Là, on parle de milliers de kilomètres. Donc, il faut arriver à faire les choses correctement, en prenant en compte, bien sûr, cette dimension espace-temps, mais aussi en s'assurant que le travail procédural soit bien fait et que la justice soit crédible au moment où elle va condamner les gens pour des faits.
Les participants doivent s'entendre et faire en sorte pour aller de l'avant. C'est ce que pense le général Didier Dako, commandant de la force conjointe du G5 Sahel.
Le concept stratégique de la force conjointe a été élaboré en début de cette année et ça prend en compte un certain nombre de composantes au nombre desquelles figure la composante police. À l'issue de l'atelier qu'on définira de commun accord entre militaires, entre responsables militaires, responsables de la police et responsables civils, on définira réellement quel est le cadre dans lequel la composante police sera intégrée au sein de la force.
La rencontre de Bamako prend fin ce vendredi 8 décembre 2017. Elle doit permettre l'adoption des textes réglementaires de la force civile et déterminer le nombre de policiers et des gendarmes par zone. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Comme beaucoup de pays subsahariens, suite à l'indignation née de la diffusion de vidéos montrant des marchés de vente de migrants en Libye, le gouvernement nigérien a aussi décidé de rapatrier ses ressortissants émigrés dans ce pays et désiré de rentrer volontairement. C'est ainsi que une première vague d'un peu plus de 500 personnes est arrivée hier soir à Niamey. Reportage de notre correspondant Abdelrazak Idrissa.
Il y avait sur le visage de la plupart des 504 ressortissants nigériens venus de la Libye en cette soirée du mercredi 6 décembre 2017 à l'aéroport de Niamey de la joie. Pour certains, c'est même une délivrance. La Libye leur paraissait comme un enfer.
Tout ce qu'on dit sur la Libye, c'est la vérité. Ce qu'on vous a dit qu'on a fait à Libye. On tue des hommes, on égorge, on menace. Il y a même, on vous trouve comme ça là. Il y a les gars qui vous trouvent, ils vous mettent les feux, ils passent. Non, je me sens à l'aise maintenant, mon frère. Je suis chez moi. Je vais faire comme je veux. Je ne souhaite pas encore retourner à Libye. Non. Ça, c'est impossible.
Non, même si on me paye, je ne veux pas aller là-bas. Je fais quoi là?
Moi, je fais 3 mois en prison. Sans manger, sans boire, on tue les gens, on frappe les, on les tabasse, on est maltraité. Ça me fait plaisir de rentrer à la maison comme ça. Je suis très heureux maintenant.
Cette vague est la première d'une série, l'ambassade du Niger en Libye ayant déjà enregistré 4000 candidats au retour volontaire. Même eux ne sont que ceux qui sont dans les villes proches de Tripoli, la capitale, rassure ce jeune.
Ceux qui sont peut-être à 80 ou 100 km, ils ne peuvent pas venir à l'ambassade pour inscrire leur nom. Parce qu'il y a trop de barrières, tu ne peux même pas bouger à 100 mètres pour aller quelque part. Parce que ça ne va pas. C'est pour cela que je vais dire aux autorités ici, ils n'ont qu'à aller pour dire à l'ambassade du Niger de faire tout pour amener à rapatrier nos frères qui sont loin de Tripoli. Parce que nous, qu'on est venus ici, ce sont les gens qui sont aux alentours de l'ambassade. Ce sont eux qui sont venus. Mais ceux qui sont loin, à 100 ou bien à 200 km, ils ne peuvent même pas venir pour inscrire leur nom.
Parti les accueillir, le ministre de l'Intérieur, Bazoum Mohamed, les a rassurés de l'assistance du gouvernement dans ces moments difficiles.
Nous savons que ces dernières semaines ont pu être difficiles pour un certain nombre d'entre vous, pour vous tous peut-être, mais cette peine que vous avez pu endurer, aujourd'hui, elle est finie et chacun d'entre vous va rentrer chez lui en espérant que vous aurez les meilleures conditions d'accueil et que vous continuerez à vous battre tout comme vous vous êtes battu pour aller en Libye à la recherche d'une vie qui n'a pas été possible pour les raisons que tout le monde sait. Je voudrais, au nom du président de la République, une fois de plus, vous souhaiter la bienvenue. Nous avons préparé toutes les conditions pour faire en sorte que votre séjour ce soir ici à Niamey soit le plus bref possible parce que nous avons mobilisé assez de bus pour que chacun d'entre nous soit acheminé directement ce soir même chez lui.
Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Principale infrastructure aéroportuaire du Sénégal depuis l'indépendance du pays, l'aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar ferme définitivement ses portes ce jeudi à 12h temps universel pour être remplacé par l'aéroport international Blaise Diagne situé dans la localité de Dias à 47 km de Dakar, un joyau annoncé pour 2012 qui aura finalement été construit sur 10 ans et coûtant plusieurs centaines de milliards de francs CFA. Avec l'inauguration de ce nouvel aéroport, le Sénégal franchit une étape importante du plan Sénégal émergent, boussole du régime du président Macky Sall, nous dit de Dakar notre correspondant Sedina Abagay.
D'abord, c'est la qualité de service. Avec cet aéroport-là, nous visons la qualité IATA B. Au niveau de Dakar, on n'était même plus noté, il n'y avait même plus de qualité de service, on ne pouvait plus parler de A, B, C.
Les autorités sénégalaises comptent sur cette infrastructure de dernière génération pour redynamiser le secteur des transports aériens et le tourisme, comme l'affirme Mohamed Abiboula Fall, directeur de la communication de l'aéroport international Blaise Diagne.
On va ouvrir avec une capacité de traitement de 3 millions qui peut passer à 3 millions 600. C'est un levier important pour le développement du tourisme. Autour de l'aéroport va se créer au moins 6 000 emplois. Emploi direct et indirect. L'autre nouveauté, c'est que sur cet aéroport-là, nous pouvons accueillir les avions de dernière génération. Nous démarrons avec ce terminal-là, mais l'aéroport a été projeté dans sa phase ultime. Ça veut dire quoi ? Dans sa phase ultime, cet aéroport pourra traiter jusqu'à 20 millions de passagers par an.
L'ouverture de ce nouvel aéroport est appréciée par les principaux acteurs du secteur qui s'inquiètent cependant du manque d'infrastructures hôtelières à proximité. Yaya Abou Diop, de la compagnie aérienne Seiba, estime que cela risque de porter préjudice aux voyageurs.
Pour l'instant, au niveau d'ABD, il n'y a pas un hôtel à proche de l'aéroport. Si un client retire son vol, il est obligé de repartir à celui à domicile et, ou bien d'aller chercher une auberge au plus proche, soit à Sindia ou bien à Thiès, là on ne le souhaite pas. Parce qu'à ABD, si tu rates ton vol, tu risques de passer la nuit, c'est compliqué.
La desserte entre Dakar et Thiès, distant de 47 km, pose également problème avec les tarifs des taxis. Variant de 13 000 à 18 000 francs CFA, ces prix font polémique, car ils sont jugés trop faibles par les chauffeurs de taxi et trop chers par certains usagers. Ibra Dien, membre du syndicat des taxis de l'aéroport de Dakar depuis 1975, affirme qu'ils ont été
ces tarifs sont trop bas. C'est une mauvaise chose pour les taximans, car la distance entre le centre-ville de Dakar et l'aéroport de Dias est longue.
Le coût de l'autoroute à péage est très cher, tout comme le gasoil. Ils devraient appeler les taximans pour discuter d'un tarif adéquat qui arrange les transporteurs et les clients. Mais les autorités de l'aéroport ont fixé le prix de manière unilatérale, ce qui est déplorable.
Mohamed Abiboula Fall, directeur de la communication de l'aéroport, indique que les prix ont été fixés de manière raisonnable.
D'abord, l'offre est diversifiée et les coûts vont de 700 francs CFA à 18 000. Ça veut dire que chacun, en fonction de sa bourse, a le choix. Deuxièmement, on part de la cherté du prix du taxi. Quand on fait le calcul, c'est un prix raisonnable si on le compare à ce qui se passe à Dakar.
Bâti sur un espace de 4500 hectares, l'aéroport international Blaise Diagne est une infrastructure moderne qui abritera bientôt un centre de maintenance aéroportuaire. D'une capacité actuelle de plus de 3 millions de voyageurs, l'aéroport pourra accueillir à terme 20 millions de passagers par an et ainsi booster le secteur des transports aériens et le tourisme, comme l'espèrent les autorités sénégalaises. À Dakar, Seydina Abagueye pour VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Nous étions en compagnie d'Idrissa Seydoudia et Dan Albertson à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.